Bonjour, vous écoutez l'épisode 21 du podcast Les Petits Plus Zen. Je suis Séverine Feiss, je suis aide à la parentalité et j'ai passé 20 ans en maternelle REP+, et je vais maintenant vous aider à mieux comprendre votre enfant, à apaiser un peu les relations en famille, à accueillir les émotions et à profiter de la vie en famille, comme vous le méritez tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'atelier de parentalité. Cet atelier, il est né en 2019 dans ma classe, donc dans le dispositif des moins de 3 ans, pour rendre un peu plus lisible que chaque famille vivait un peu les mêmes problématiques, avait beaucoup de défis, alors certains sur le même thème ou certains sur des thèmes différents. Et comme je me rendais compte en entretien individuel qu'elles partageaient un peu les mêmes questionnements et les mêmes thèmes sur lesquels elles étaient en train de réfléchir, j'ai eu envie de les mettre ensemble pour qu'on puisse finalement réfléchir ensemble, un peu comme un mastermind, avec les mamans d'élèves, les papas d'élèves de temps en temps qui venaient. Et puis moi j'étais là pour donner la parole, pour apporter quelques infos précises et pour évoquer ces sujets qui tournaient parfois en boucle dans leur tête, pour qu'elles se rendent compte qu'elles étaient finalement beaucoup à avoir les mêmes cheminements de pensée et de questionnement. Donc certaines arrivaient à l'atelier de parentalité en ayant déjà réfléchi au thème. Je fonctionnais un peu sur le même modèle que sur Clubhouse finalement, où j'annonçais de quelles questions on allait traiter. Donc je crois que la première question qu'on avait traitée, c'était l'autorité du parent. Et donc elles arrivaient en fonction du thème avec quelques idées ou quelques situations à présenter aux autres. Et puis souvent la discussion partait un peu à droite à gauche. Chacun donnait un exemple avec son plus jeune, avec son plus grand. Donc c'était pas forcément lié à l'enfant que j'avais en classe. Ça pouvait partir sur la relation entre les frères et sœurs. Donc c'était très libre comme dialogue et ça pouvait aller d'un chemin A à un chemin B sans savoir où allait nous porter la conversation. Finalement un peu comme Clubhouse pour ceux qui me suivent là-bas. Et cette interaction entre les mamans, ce partage d'infos, vraiment elles échangeaient des astuces qui avaient marché pour elles, sans dire que c'était des astuces magiques qui allaient fonctionner dans toutes les familles, mais qui répondaient finalement à une solution ou à un problème qu'elles s'étaient posé personnellement, en se disant, écoutez, pour moi ça a marché, je vous propose d'essayer, et puis si ça ne convient pas, vous verrez après. Donc voilà, il n'y avait rien du tout d'injonction, il n'y avait pas d'intervention directe, ni d'une des mamans, ni de ma part, en disant, c'est la bonne solution, il faut faire comme ça. C'était pas du tout l'idée. L'idée, c'était de laisser émerger des fois les contradictions, puisqu'il y a des mamans qui d'elles-mêmes disaient « Ah mais non, je comprends pas, pourquoi vous faites ça ? Moi, quand je fais ça, ils s'énervent encore plus. » Donc de créer un peu le débat et la discussion pour qu'elles se rendent compte que peut-être la façon de penser était modulable, que peut-être on pouvait ouvrir l'angle de réflexion, que peut-être on pouvait voir ça aussi du côté des enfants. C'était la plupart du temps mon rôle de repartir sur le besoin de l'enfant dans telle ou telle situation, comme je l'explique dans plusieurs épisodes, que évidemment il y a plusieurs situations où le comportement de l'enfant répercute un peu notre état d'esprit et nous fait partir peut-être dans un feu de cheminée ou un agacement qui nous amène à penser qu'il faut trouver une solution miracle. Mais bien souvent la solution miracle, elle peut soit s'anticiper quand on a mieux identifié le besoin de l'enfant avant la crise, ou alors quand la crise est là, nous d'abord de nous calmer en tant qu'adultes, pour ensuite essayer de comprendre et de faire sortir l'enfant de la situation pour que les deux parties puissent un peu trouver leur compte, de trouver un bon compromis. Et avec ces mamans-là et ces papas-là, on essayait de trouver une situation chacun pour vraiment se donner les moyens d'explorer, pour voir si en évoluant, peut-être quand ils avaient leur premier enfant, ils faisaient différemment du deuxième et du troisième enfant. Donc ça, c'était intéressant aussi pour les mamans qui n'avaient qu'un enfant, de se rendre compte que oui, on va évoluer dans notre parentalité sur des années et qu'on fera plusieurs choses dont on ne sera pas forcément fier au début parce qu'on n'avait pas trouvé d'autres solutions. Et puis plus on va y réfléchir et plus on va tester, plus on va s'inspirer des autres en se disant ça, ça me convient, ça ne me convient pas. De voir qu'on peut évoluer sur sa parentalité très rapidement, d'un enfant à l'autre ou même d'un mois sur l'autre. Et il y a des mamans qui sont ressorties de ces ateliers-là en disant « J'aurais jamais pensé à essayer ça ». Ça m'a ouvert un champ des possibles très différent. On ne sait pas si ça va marcher, mais en tout cas, elle repartait non pas avec une boîte à outils, mais avec l'espoir de pouvoir faire changer un peu la situation et de se dire qu'un autre résultat était possible en tout cas. Donc soit c'était le bon outil pour elles dès le premier coup, soit elles essayaient un autre outil à la fois suivante. Et puis la manière de présenter aussi le fait que presque tous les enfants de la classe avaient à un moment donné leur propre feu de cheminée et que tous les enfants de la classe avaient à un moment donné des rayures de l'arc-en-ciel qui clignotaient et dont on avait besoin de s'occuper, m'avait permis aussi à l'époque de commencer à induire l'idée du tequil, dont je vous parle en épisode 8, en disant aux mamans, mais si vous voulez créer un bon climat de confiance et de connexion, n'hésitez pas à trouver l'activité qui convient vraiment à chacun de vos enfants, celle qui lui permet à la fois de se détendre et d'apprendre, ou à la fois de se reposer ou de mieux se sentir en confiance avec lui-même, se sentir puissant. Donc de les guider vers cette notion du tequil. Pour une des mamans, c'était vraiment de mettre la musique à fond et de danser. Ça, c'est un des posts du voyage zen que je vous ai partagé la semaine dernière. Donc, de faire un tequil dance où tout le monde vraiment nourrit son besoin de mouvement et à la fois se dit « Waouh, je décharge toute l'énergie de la journée et puis je me connecte avec mes parents parce que cette musique me plaît ou ça me paraît intéressant. » Et puis, les parents aussi, du coup, relâchent la pression. Donc ça avait bien plu aussi, cette idée de tequil dance. Et puis d'autres mamans ont proposé d'autres techniques, d'aller courir au parcours de santé qui n'était pas très loin de l'école, ou de se répartir les enfants sur le week-end pour que chacun fasse une activité, une fois avec papa, une fois avec maman. Donc toutes les configurations étaient possibles et ça a mutualisé les idées et les partages entre elles, entre eux. Et d'un atelier sur l'autre, c'était pas toujours les mêmes situations, c'était pas toujours les mêmes parents non plus, parce qu'il y avait des parents qui avaient d'autres rendez-vous, qui pouvaient pas se libérer ces jours-là. Donc ça permettait à chaque fois d'avoir vraiment des interventions très différentes, très riches. Et puis comme on changeait de thème, ça permettait une fois de parler des écrans, une fois de parler des émotions, de l'accueil des émotions chez les tout-petits. Une fois on a parlé aussi des rythmes de vie dans le sommeil et dans les repas. Donc tous ces sujets classiques sur la parentalité que vous avez dans tous les blogs, dans tous les podcasts, dans tous les livres d'éducation pour les jeunes enfants, on pouvait aussi les traiter sous l'angle « Et vous, comment vous faites ? Est-ce que vous avez trouvé d'autres solutions ?» Et puis de temps en temps, je glissais une ou deux informations qui venaient de mon expérience non seulement de maîtresse, donc par rapport au groupe, au collectif, et puis aussi par rapport aux progressions qu'on établit nous sur les compétences scolaires, comme je vous disais dans le dispositif et sur le fait de parler aussi, tout ça est rétroactif. Si on veut que à la fin de la scolarité, toutes les compétences soient acquises, on va bien sûr les découper en petits sous-thèmes, en petites séquences, en petites séances et en notions plus faciles à appréhender pour chaque enfant. Donc les parents repartaient avec ces clés-là, libres à eux après de les appliquer ou non. C'était le plus important, c'était d'arriver à faire finalement communiquer les familles sur l'idée qu'on avait chacun nos problèmes. Et de temps en temps, moi aussi, en tant que maman, je disais, quand ma fille était jeune, j'ai été confrontée à tel ou tel problème également. Bien sûr, j'ai eu les mêmes problèmes que tous les parents de ma classe. Et de me dire que ma posture était complètement horizontale, comme dans l'épisode 2. Je n'étais pas là pour apporter ni la bonne parole, ni la solution miracle. Je pouvais donner l'angle de la classe, parce que je vois aussi beaucoup le comportement des élèves en classe et qu'il est parfois différent de ce qu'il y a à la maison, comme on disait l'épisode sur les entretiens avec les parents. Et le fait de distribuer la parole, que chacun puisse s'exprimer, vous sentez aussi que ça les aidait en fait à évacuer un trop-plein, de se dire « mais moi j'y arrive pas, moi je suis nulle, moi je sais pas faire, les autres savent mieux », d'enlever en fait cette notion de comparaison, cette notion de jugement où on croit que les autres font mieux, où on croit que les autres n'ont pas de problème, ce qui est complètement faux, évidemment, on a tous nos problématiques de parents, ce ne sont pas forcément les mêmes, mais on en a tous, et de se dire à ce moment-là, c'était intéressant pour tout le monde de voir que oui, on allait peut-être se ramasser, mais que le droit à l'erreur nous fait progresser tous, et qu'on aurait au moins l'idée qu'un autre possible était existant. Donc, par rapport à toutes ces infos, on pouvait d'une séance sur deux aussi se dire, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que tu as essayé autre chose? Quel résultat tu as eu? Et voir une certaine progression d'un atelier de parentalité sur l'autre. On en a fait à peu près 8, parce qu'après, il y a eu le confinement. Donc, ça a été un peu plus compliqué de continuer, je ne vous cache pas. Parce qu'à distance, on n'a pas réussi à le faire. Mais au fil du temps, on a vu une certaine confiance dans leur parentalité, notamment les mamans pour qui c'était le premier enfant scolarisé et qui avaient été assez isolées en fait en famille avant de scolariser leur enfant, de prendre confiance dans l'idée que oui, c'était pas facile et oui, il n'allait pas y avoir tout de suite des résultats, mais qu'on pouvait se faire confiance dans l'idée que si une difficulté se présentait, ben on y répondra. On essaiera, on fera de notre mieux, hein, comme l'accord Toltec, et de se dire qu'ensuite, si la conséquence de cette action ne nous plaît pas non plus, eh ben on pourra remettre en place une nouvelle action qui aura peut-être une conséquence meilleure pour nous, meilleure pour l'ambiance en famille, meilleure pour l'ambiance en classe. Nous aussi, hein, on fait ces tests-là en classe, on essaye une procédure, on se dit, bon, là, j'ai perdu une partie du groupe dans cette activité, ça veut dire que ma consigne n'était pas claire ou mon document n'était pas assez grand. Et nous aussi, on fait ces expériences-là en tant que professionnels, de se dire, puisque ça n'a pas bien fonctionné comme je voulais, bah, je vais remettre en cause soit ma façon de l'expliquer, soit mon matériel, soit mon document, soit l'horaire aussi, de le faire à un autre horaire, et de repartir dans une expérimentation. On essaye, on apprend et on voit après si ça passe mieux ou si ça passe moins bien. Et au-delà de la notion de temps, de passer du temps avec chaque famille, c'est vrai que c'était plus avantageux pour moi de faire un atelier de parentalité parce que j'avais toutes les mamans du coup qui entendaient un peu les mêmes informations. Mais ce que j'ai noté aussi, et que vous avez sûrement noté si vous avez fait du travail de groupe, que ce soit un coaching de groupe ou un atelier de parole, c'est que la connexion se fait entre les personnes parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont vraiment les mêmes intentions de bien faire, les mêmes intentions de progresser. Il y a cette idée de croissance qui est importante. On est là pour faire à la fois des efforts et des progrès, et de voir l'énergie circuler entre tous ces parents qui sont là pour réfléchir et pour faire avancer leur famille et pour que tout le monde soit plus apaisé et que les crises soient moins fréquentes et moins nombreuses. Ça donnait vraiment une belle énergie à la fois d'identification, à la fois d'entendre les problèmes des autres. Ça mettait parfois à distance un peu nos problématiques aussi, de se dire, ah bah oui, cette problématique-là, c'est vrai que je l'ai eue et moi je l'ai dépassée. Donc il y a une sorte de fierté qui n'est pas dans la comparaison, mais qui est dans, par rapport à soi, cette problématique-là, on l'a eue aussi, mais on en est sorti. Et d'entendre comment les autres présentent leurs problématiques à eux. Si on n'est pas encore dans cette problématique-là, par exemple, quand il y a une maman qui parlait de ses ados et qu'une autre maman n'avait pas encore d'ados, elle pouvait se dire, bah, je peux mettre ça sur mon étagère pour y réfléchir plus tard et pour me dire, bon, j'aurais déjà entendu une version de l'histoire, je verrai si à ce moment-là, je reprends cette idée-là ou pas. Donc, un peu comme les enfants qui mettent les mots et la syntaxe sur des bases de données, hein, je vous disais ça dans l'épisode 12. Les parents qui venaient en atelier de parentalité piochaient des choses, des idées, des notions, et puis les emmenaient dans leur fichier interne, dans leur dossier, dans leur poche, pour les utiliser ou pas. Ils étaient complètement libres de nous faire un retour ou de ne pas nous faire un retour. Mais j'ai senti qu'il y avait un vrai effet miroir entre toute cette confiance qui s'installait dans le groupe et cette connexion en fait, parce que on laissait tomber un peu les résistances, on laissait un peu notre ego de côté en se disant, bien entendu, il y a personne ici qui est parfait, il y a personne ici qui peut servir de modèle aux autres, on est tous dans un cheminement. Et ça me permettait à l'occasion de repréciser des notions qui ne sont pas toujours abordées en réunion, hein, comme le développement du cerveau de l'enfant, comme bah, reparler de la cheminée des émotions quand c'était nécessaire. Parce que comme quand on fait l'entretien, on s'occupait plutôt des compétences entre guillemets scolaires, les ateliers de parentalité, c'était l'occasion de reformuler ou de représenter ces notions-là qui sont chères à ma pratique de façon un peu plus explicite quand il y en avait besoin. On a parlé aussi dans ces ateliers du réservoir affectif, de toute la notion d'attachement, hein, que je vous présentais sur l'idée de la séparation, et puis des conséquences sur le long terme. Donc ça nous arrivait de préciser aussi que ce qui s'était passé avec le premier enfant n'aura pas forcément les effets avec le deuxième et le troisième, mais de laisser quand même s'installer l'idée que l'enfant évoluera quoi qu'il arrive et qu'on verra les résultats sur le long terme. On ne va pas faire des bilans intermédiaires tous les 2 mois en disant est-ce que c'est réglé, est-ce que c'est résolu. De se laisser aussi le temps d'approfondir nos réflexions, nos chemins, nos essais, nos erreurs, de conclure un peu toutes nos hypothèses scientifiques, comme si on essayait de rédiger le résultat le plus concret possible en fonction de tout ce qu'on a déjà essayé, en se disant que si le test A, le test B, le test C n'étaient pas très concluants, eh ben on va se lancer dans un autre test encore, un test D, et ne pas hésiter à s'appuyer sur les expériences et les propositions, j'allais pas dire les avis parce que on fera un épisode sur l'avis des autres, donc plutôt les propositions dans le sens, puisque je n'ai pas la même vie, je te dis juste ce que je vis, ce n'est pas mon avis, tu devrais faire ça, mais c'est une proposition, hein, comme dans un buffet, on met tout sur la table et puis celui qui veut venir manger de la tarte aux framboises, il mange que de la tarte aux framboises. Il n'est pas obligé d'essayer tout le buffet. On reste centré sur nos envies, nos valeurs, nos besoins en fonction de la configuration de nos enfants, de notre famille, puisqu'il y a des mamans qui étaient monoparentales. Elles ne pouvaient pas forcément mettre en place certaines idées. C'était impossible dans la configuration qu'elles vivaient. Mais de se dire, il existe d'autres solutions potentielles et on peut en discuter ensemble. Cette idée aussi permettait, je pense, que la vulnérabilité rapproche ces mamans en dehors de l'atelier. Et j'ai vu que certains binômes s'étaient créés. C'était assez intéressant parce que je me souviens notamment d'une maman qui avait 4 filles et qui s'était rapprochée d'une maman qui avait une seule fille. Et elle se voyait en dehors de l'école, elle discutait souvent éducation, pédagogie. Et j'ai trouvé ça assez fort de voir que c'est l'envie de faire progresser leur fille qui les a fait se rencontrer et s'échanger des astuces et se soutenir l'une l'autre quand elles avaient un petit peu des périodes plus difficiles. Et j'ai trouvé ça humainement très touchant de se dire quand on dépasse l'idée de comparaison, quand on dépasse l'idée de compétition, finalement, on peut être un support les uns des autres et se donner un peu d'aide, même si elle n'est pas toujours exprimée. Et cette notion d'appliquer finalement le tequila avec ces mamans-là, hein, de leur faire prendre conscience de leurs valeurs, de leur identité, de tout ce qu'elles ont déjà accompli, du chemin de parentalité sur lequel elles sont, ça les a rendues plus autonomes, je pense. Ça les a rendues un peu plus indépendantes dans l'idée qu'elles allaient mener leur propre chemin. Et du coup, ça mettait du sens dans leur façon d'expliquer les consignes à leurs enfants. Ça mettait du sens aussi dans les épreuves qu'elles ont vécues, en se disant, quand j'ai vécu cette difficulté-là, j'en ai tiré des conclusions. Et avec ces conclusions-là, je peux avancer sur une autre route, bifurquer, changer d'option, dire non à quelqu'un, éventuellement me séparer aussi. C'est un cas qu'on a eu en pleine année. Il y a eu un couple qui s'est séparé. Et du coup, on réfléchit autrement, puisque les conditions de vie ont évolué. Ça remet à plat des problématiques qui n'apparaissaient pas comme telles il y a quelques mois. Donc c'est un chemin que j'ai beaucoup aimé de mener ces ateliers de parentalité. Dans d'autres écoles, elles ont fait aussi des ateliers de parentalité où elles faisaient venir des experts, notamment une psychologue, peut-être pour parler des écrans, une intervenante aussi sur les fonctions nutritives, sur l'alimentation. Donc là, comme elles faisaient venir un expert, on en avait débattu un peu en ré plus de se dire est-ce que les parents vont prendre l'information de la même manière, est-ce que ça va pas être un peu descendant et vertical, et leur retour était plutôt positif. Je pense que c'est vraiment la posture de l'adulte qui vient, l'humilité avec laquelle il se présente qui fait la qualité de la réunion, la qualité de la conférence. Hein, il peut y avoir des conférences auxquelles vous avez assisté où la personne, même si elle était bardée de diplômes et avait une expérience de CV impressionnante, pouvait quand même connecter avec votre expérience de vie, donner les exemples accessibles et finalement se mettre dans une proximité intellectuelle, émotionnelle qui ne fasse pas peser le poids des diplômes et le poids de l'expérience sur la salle. Donc cette idée-là m'a vraiment beaucoup plu. Je pense que quand le confinement est arrivé, ça a vraiment mis un coup de massue sur le lien qu'on avait créé dans ce cercle des parents. On l'a continué différemment, hein. Comme je vous disais dans l'épisode sur le dispositif, on s'est appelé de temps en temps. Elles sont restées en contact entre elles, soit par leur binôme, soit par un groupe WhatsApp qu'elles avaient créé pour le confinement, pour s'envoyer des astuces aussi et des conseils. Et finalement, on a invité tout le monde aussi, en tant que parents, à penser à leurs propres besoins. Parce que même si on parlait beaucoup des enfants, il nous est arrivé à plusieurs reprises de dire que la fatigue du parent est déterminante finalement dans la capacité à écouter plus notre enfant, à écouter plus ses propres besoins. Quand nous, on a notre arc-en-ciel de besoins qui clignote, quand nous, on a nos rayures qui appellent à l'aide en disant là, il y a un besoin de repos, là, il y a un besoin de soutien, là, il y a un besoin de partage, il y a un besoin de liberté, il y a un besoin de défi ou d'harmonie ou de paix. Tous ces besoins qui clignotent sur notre arc-en-ciel à nous peuvent nous empêcher d'être plus à l'écoute des besoins de nos enfants. Et s'il y a plusieurs enfants, vous imaginez à quel point notre propre arc-en-ciel est mis à mal si en plus on doit se centrer sur plusieurs enfants qui ont plusieurs rayures et plusieurs besoins, ça devient vraiment pesant de faire attention à tout en même temps. Donc ce cercle de soutien, il a été précieux pour certaines mamans qui m'en ont parlé même 2 ans après. Je leur fais un petit coucou si elles écoutent l'épisode, et de me dire que c'est vraiment ça qui m'a manqué quand je suis retournée dans une classe normale. Donc l'année dernière, j'avais des petits moyens en début d'année, et de me dire je ne peux plus installer ces cercles de parents parce que les parents n'avaient plus le droit de rentrer à l'école avec le protocole sanitaire. Ça m'a beaucoup manqué et je me suis dit que c'est quelque chose que j'aimerais remettre en place plus tard. Et voilà, j'en suis arrivée à ce point-là où ça va se mettre en place très prochainement. Certains le savent, je suis en train d'organiser des modules en ligne qui pour l'instant s'appellent le cercle de parents Tekkil, où on prendra justement le temps de mettre à plat notre parentalité, de donner nos défis, d'écouter des solutions, de voir si des informations peuvent nous aider à avancer sur ces principes, à la fois éducatifs, à la fois émotionnels et à la fois dans le développement finalement de l'ensemble de la famille, hein, puisque bien sûr je m'occupe des besoins des enfants, mais pour s'occuper des besoins des enfants, je venais de vous le dire, je vais m'occuper aussi beaucoup des besoins des parents, notamment du besoin de sens, de comprendre mieux le fonctionnement de l'enfant. Et donc cet atelier de parentalité qui m'a fait tant de bien en 2019 et qui avait tant de sens pour moi, je vais le mener maintenant en dehors de l'éducation nationale. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher du site lppzen.com, de laisser votre adresse dans la petite vignette qui s'affiche, ou de m'envoyer directement un message sur Instagram, les petits plus zen, ou sur mail lppzen@gmail.com. Il n'y aura pas beaucoup de place, j'hésite pour l'instant entre 10 et 20. Je vais peut-être faire 2 groupes. Et en tout cas, je suis sûre que ça va être une aventure formidable pour qu'on puisse chacun avancer sur nos parentalités respectives. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.